les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Frédéric Géa, professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles à l'Université de Lorraine, soulève la question suivante : à quoi sert le droit du travail ? Premier épisode : à quoi sert le droit du travail ? Pourquoi cette question ?
Chers auditeurs d'Amicus Curiae, voici une question intrigante : à quoi sert le droit du travail ? Alors, qu'est-ce qu'on va loger derrière cette question ? Est-ce qu'on supposerait que le droit du travail pourrait ne servir à rien, c'est-à-dire ne remplir aucun office, n'assurer aucune fonction ? Au fond, ce propos, il trouve des échos derrière ceux qui mettent en cause le droit du travail, en pointant d'ailleurs une responsabilité, à tort ou à raison de celui-ci, dans certains maux de notre société, et notamment s'agissant du chômage. On peut aussi songer à ces salariés qui sont investis pendant des années et qui, du jour au lendemain, se trouvent mis à la porte, qui perdent leur emploi, qui perdent en réalité une partie de leur raison d'être. Ceux-là sont parfois enclins à dire « mais le droit du travail n'est-il pas en mesure de s'opposer à ce que nous vivons ? À quoi bon le droit du travail s'il ne peut pas nous sauver de ce péril ?» Alors qu'est-ce qu'on repère derrière ces questionnements ? On repère des normativités, il me semble, des normativités alternatives, peut-être une espèce de normativité économique, parfois une normativité comptable qui vient prendre le dessus sur le droit du travail, qui vient présider aux décisions que vont subir les uns et les autres. Alors cette question, à quoi sert le droit du travail ? Elle n'est pas nouvelle. Elle a en réalité sa littérature. Je songe tout particulièrement à un article d'Antoine Jameau paru en 1980 dans l'ouvrage de droit capitaliste du travail. Je songe également à un article d'Alain Supiot qui s'interrogeait sur pourquoi un droit du travail, les perspectives de l'un et de l'autre n'étaient pas les mêmes. Mais au fond, ce questionnement à quoi sert le droit du travail irriguait leurs réflexions respectives. Il n'empêche que cette réflexion mérite sans doute d'être reprise aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le droit du travail, on le sait, se reconfigure, se transforme, émerge un nouveau droit du travail dont on n'identifie qu'une partie seulement des lignes. On sait qu'un mouvement est en cours et c'est cela qui rend d'ailleurs la matière tout à fait passionnante à l'heure actuelle. Je dirais par ailleurs que le regard que l'on porte sur ce droit s'est lui-même déplacé. Sans doute ne le scrute-t-on plus uniquement à travers les textes, mais aussi à travers l'appropriation qu'en font les acteurs. On sent bien que c'est là que se joue la réalité, l'accomplissement, la réalisation, je dirais, du droit du travail, sa concrétisation. Dans cette appropriation des acteurs, le droit de la négociation collective, c'est particulièrement manifeste. Il ne suffit pas de présenter les textes et le droit de la négociation collective à travers ces textes. Si les acteurs ne s'emparent pas de ces textes et si on ne scrute pas ce qu'ils vont faire à partir de ces textes, eh bien on ne voit pas grand-chose en réalité de la manière dont se réalise ce droit de la négociation collective. Et puis il y a un autre élément qui conduit à remettre à plat cette question. Ce sont les réflexions qu'a développées François Host dans un ouvrage majeur qui s'intitule « À quoi sert le droit ?» avec un sous-titre « Usage, fonction, finalité ». Et François Host, qui est juriste, philosophe, belge, auteur tout à fait central dans la philosophie et la théorie du droit, invite à un renouveau, ou plus précisément à une tentative de renouveau, sur ce sujet à la fois difficile mais essentiel. Le plus simple est de l'écouter.
À quoi sert le droit ? La question n'est pas vraiment nouvelle, mais elle se pose aujourd'hui avec une acuité beaucoup plus forte dès lors que le droit se globalise, que les échanges se privatisent, que le pouvoir des États est en question, que nous vivons ce qu'on appelle une concurrence des normativités. Pour le dire plus simplement, qu'est-ce qui change lorsque deux personnes ou un groupe décident de transformer leur relation sociale, économique, affective, de la transformer en lien juridique. Ou à l'inverse, qu'est-ce qui change lorsque ces mêmes deux personnes ou ce même groupe décident de se passer du droit? Alors cette question, j'y réponds en croisant le regard du juriste, du spécialiste des sciences sociales et du philosophe. Le juriste, il connaît les fonctions du droit. Ce sont des fonctions de tissage du lien social, des fonctions de limitation ou de bornage en fixant des interdits. Et puis surtout, ce sont des fonctions de mesure, mesure des justes liens qui unissent les personnes et qui réunissent les personnes et les choses. Mais à cela, le spécialiste des sciences sociales répond que si le droit peut être appliqué conformément à ses fonctions, il peut aussi être contourné ou détourné. On peut abuser du droit. En fonction de leurs stratégies et de leurs intérêts, autant les gouvernants que les gouvernés se servent du droit, en font des usages variés. Et puis il faut introduire le point de vue du philosophe, qui se demande quelles sont les finalités ultimes de cet usage et de ces fonctions du droit. La justice, la démocratie, comment repenser le droit pour satisfaire à ces objectifs.
Alors, ce propos, il est particulièrement intéressant sur les fonctions, on l'a entendu, hein, François Host met en avant les idées de tissage, de bornage, de mesurage. Mais c'est du côté des finalités que sa réflexion se révèle particulièrement riche, parce qu'il va en outre distinguer deux types de finalités qui peuvent traverser le droit. D'un côté, des finalités qu'il qualifie d'extrinsèques, et puis des finalités intrinsèques. Qu'appelle-t-il finalité extrinsèque? En fait, ce sont des finalités extérieures au droit que le droit partage avec d'autres domaines, en quelque sorte, qu'il n'est pas le seul à poursuivre. C'est le cas de la démocratie, de la justice, de la constitution de l'humain, dit-il. Il n'a pas le monopole de la défense de ces finalités-là. Et à côté de ces finalités extrinsèques, il y a des finalités, dit-il, intrinsèques qui, elles, sont particulières au droit. Il va les présenter de la manière suivante. D'un droit voué à la promotion de la démocratie, de la justice et de la constitution de l'humain, on parle là des finalités extrinsèques, nous attendons, et on en arrive aux finalités intrinsèques, qu'il définisse un équilibre social général à vocation opératoire, qu'il soit en mesure de l'imposer par une contrainte réglée, génératrice de confiance, et qu'il soit également susceptible d'assurer sa remise en cause dans le cadre de procédures déterminées. Voilà comment François Host présente les différentes finalités du droit, et en mettant l'accent sur le fait que les usages du droit peuvent effectivement prendre à rebours ces finalités, le cas échéant, d'où la nécessité de les scruter également de près. Alors cette analyse, elle présente, à mon avis, de nombreux mérites. D'abord de distinguer ces différents niveaux, de distinguer ces différentes finalités. Le fait même de mettre en avant ce questionnement « à quoi sert le droit ?» me semble absolument essentiel aujourd'hui pour situer la place du droit, le rôle des juristes et, le cas échéant, leur spécificité. Mais il faut également préciser que derrière le propos de François Host et derrière chacune des fonctions qu'il met en avant se retrouvent deux dimensions qu'il a toujours théorisées. C'est d'un côté la dimension instituante du droit, le droit institue à proprement parler, et sa dimension normative. Elles ne sont pas ici ignorées, elles sont implicites, sous-entendues, au travers des différentes fonctions qu'exprime François Host. Alors, quelle réflexion suscite cette analyse dans une perspective travailliste? Les dénominations qui sont retenues par François Host réveillent un imaginaire historiquement situé, tissage, bornage, et en les englobant en réalité mesurage ou mesure du social, dit-il. C'est un vocabulaire technique qui n'est pas sans renvoyer au langage de la deuxième révolution industrielle, textile, la propriété, une certaine organisation du travail. C'est donc un langage très évocateur sous l'angle du droit du travail et qui va permettre de toucher aux relations. La matière du droit du travail est une matière profondément relationnelle, le rapport de travail, les relations professionnelles. C'est un langage également qui met en avant l'idée de limite. Cette idée de limite, elle est essentielle dans un rapport de travail qui accorde toute une place au pouvoir et qui va placer une personne sous la subordination d'une autre. Par ailleurs, les notions que convoque François Host se concilient fort bien avec le modèle du jeu, et pour cause, elles s'en inspirent. Ce qui n'est pas anodin pour un travailliste en prise avec un droit qui de plus en plus devient droit des acteurs du travail. Alors, sans doute s'agit-il en réalité de métafonctions qui se rapportent au droit appréhendé sous un angle global, général. La thèse que je vais avancer tient à l'idée que les fonctions et les finalités dont parle François Host coexistent avec des fonctions et finalités spécifiques à une branche du droit, à l'instar du droit du travail. Il s'agit en réalité de plans distincts et, à mon avis, très différents. Le plan de François Host, s'agissant des fonctions et finalités, est un plan général, et le plan sur lequel je vais me positionner est un plan qui se situe à un autre niveau et qui va concerner spécifiquement les fonctions et finalités du droit du travail, en particulier du droit du travail dans sa singularité. Alors, comment penser cette question? Tout d'abord, en scrutant, en sentant les transformations dont le droit du travail fait aujourd'hui l'objet, en écoutant les discussions que cela suscite, la question de son rôle en matière d'économie ou de l'influence qu'il subit de la part de telle ou telle doctrine économique se trouve mise en avant. La question de la protection, fonction ou finalité est pointée aujourd'hui et certains se demandent si elle n'est pas en train de régresser à travers les mesures qui ont pu être adoptées en 2016 et 2017. De là part mon questionnement. Appréhender les fonctions du droit du travail implique, à mon sens, d'y voir des sortes de terrains, de scènes, non sans lien avec cette idée d'un droit des acteurs du travail. Des scènes qui ne préfigurent pas toujours les finalités, des finalités au demeurant contradictoires peut-être, qui se déploient en leur sein, ou auxquelles ces fonctions donnent lieu. Il faut, à mon avis, se méfier d'une approche linéaire, réductrice, susceptible d'ignorer que le sujet est éminemment discutable, controversable même. Pourquoi l'est-il? Parce qu'on est dans le registre de l'interprétation, on n'est pas dans une approche descriptive, on n'est pas dans une approche rigoureusement scientifique, on est dans une approche interprétative, herméneutique. Et par ailleurs, il faut avoir à l'esprit que les fonctions, finalités et usages du droit du travail présentent un caractère évolutif. Alors voilà, penser les fonctions et finalités du droit du travail, c'est se demander d'où vient et où va le droit du travail.
Dans les usines, il n'y a plus personne. Ça fait plus net quand midi sonne et que Miss Robot danse la polka. Il y a des boulons électroniques qui se visent tout seuls, c'est fantastique, et qui vont pas au syndicat. Ah mais dis donc, mais c'est intéressant ça. Oh là là. Oh, la vie moderne.
Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blocheberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus.
Ça fait gueuler!
N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.